débats, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
Lewis Hamilton, à jamais le premier à voir son nom inscrit au palmarès du Grand Prix du Qatar, est plus que jamais en passe de garder sa couronne mondiale à deux courses de la fin. Bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport spécial Formule 1.
Je suis l'aigle de la route.
Quel dommage.
Schumacher, je pense,
non,
à la
il
roue
avait
avant
passé.
Droite qui est ouverte.
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Fabio Quartararo, vainqueur de sa première course en MotoGP. C'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire.
La route est dégagée, petit grand.
Fais-moi péter cet engin en.
Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire.
Pour nous accompagner, les mêmes fous du premier virage, Samy, Aliou Alassane et Teddy sont là. Salut messieurs.
Salut à tous.
Salut les gars.
Messieurs, petit rappel des résultats de ce Grand Prix du Qatar, le premier des trois Grands Prix du Golf. Et c'est une nouvelle victoire de Lewis Hamilton, impérial devant Verstappen impuissant et surprise, la troisième marche du podium pour Fernando Alonso et son Alpine qui, on le rappelle, est leader au classement des dépassements. Le seul classement qui compte, messieurs. Pérez termine quatrième, Bottas a lui abandonné. Statu quo au classement des pilotes, Verstappen n'a plus que 8 points d'avance sur Hamilton, l'écart fond. Bottas et Pérez toujours 3 et 4. Et au niveau des constructeurs, 6 points séparent Mercedes, toujours en tête des Red Bull. Ferrari reste la troisième écurie devant McLaren et devant Alpine qui progresse au classement. Voilà messieurs, place au débat, quelques jours après le Grand Prix du Qatar. Alors comme on l'avait annoncé ici il y a quelques semaines, ça y est, Hamilton commence son ascension finale vers le titre. Il a été impérial tout le week-end. Finalement, Red Bull et Verstappen pouvaient-ils faire mieux que cette deuxième place du pilote, toujours leader au classement, Samy ?
Bah écoute, difficile de faire mieux avec les circonstances. Déjà, on a un Hamilton qui marche sur l'eau et qui commence à faire extrêmement peur. Si bien qu'à deux Grands Prix de la fin, je pense qu'on est beaucoup à revoir notre jugement. Nous qui pensions, une certaine partie en tout cas des observateurs de Formule 1 pensaient que c'était plié pour Verstappen après le Mexique. Alors c'est de constater que là Verstappen a beaucoup de mal et que la deuxième place, on rappelle qu'il a une pénalité pour ne pas avoir ralenti sous régime de drapeau jaune lors des qualifications. Il commence septième, au bout du quatrième tour il est déjà derrière Hamilton, mais déjà au bout de quatre tours, il est à plus de 6 secondes d'Hamilton et là c'est déjà plié au fait, il ne le rattrapera jamais.
Ouais, bah, donc c'est pas qu'il a du mal en fait Verstappen, c'est que la Mercedes d'Hamilton finalement on ne sait pas d'où elle sort là.
Oui, effectivement, je ne dis pas que Verstappen a du mal, je dis que Verstappen est fidèle à lui-même, seulement Mercedes a peut-être réalisé le meilleur coup en pariant sur une plus longue longévité du moteur d'Hamilton et le changer le plus tard possible pour qu'il puisse avoir dans un circuit ou dans des circuits où Mercedes a l'habitude de bien fonctionner, c'est-à-dire comme on l'a répété dans les émissions précédentes, les circuits du golf, et là il a tous les atouts pour aller chercher le titre. L'avance de Verstappen fond comme neige au soleil et pourtant le néerlandais ne semble pas baisser de rythme,
il est régulier,
il n'a jamais aussi bien piloté, il est toujours là où il faut quand il faut, mais en face de lui c'est autre chose et ce n'est pas forcément que le pilote qui fait la différence. Là pour le coup on est vraiment sur un combat de machine et il sera très difficile pour Max Verstappen de remporter le titre. En tout cas c'est mon avis, moi qui l'ai mis largement favori après la démonstration du Mexique. Là il se prend coup sur coup deux démonstrations. Pour l'instant on le sent pas forcément atteint parce qu'il reste complètement concentré pour aller chercher le titre, mais on sent quand même que du côté de chez Red Bull on n'est pas aussi serein que ça.
Mais au regard des circonstances de course, Samy, où on a vu Red Bull assez prudent quand même. Red Bull voulait absolument, se satisfaisait très clairement de cette deuxième place de Verstappen. Est-ce que finalement, là, leur inhabituel attentisme, on va dire, n'est pas de nature à leur coûter le titre, parce qu'ils auraient très bien pu faire coup de poker en laissant Verstappen un peu plus longtemps sur la piste et puis en essayant de faire en sorte qu'Hamilton suive la stratégie de Verstappen. Et puis l'un des deux aurait crevé finalement, puisque c'était les circonstances de course. Il ne fallait pas rester trop longtemps sur la piste.
Trois pilotes qui ont crevé avec des pneus durs. Passé de 30 tours, voilà exactement, les pneus avant gauche notamment. Donc Bottas et les deux Williams. Franchement, oui. Je t'avoue que pendant la course, ce qui était le plus logique, c'est de laisser Verstappen en course, qui pousse automatiquement Hamilton à rester en course. Et donc, du coup, c'était plutôt Red Bull qui avait le lead sur la stratégie. Ils l'ont fait rentrer beaucoup trop tôt. Et puis, il faut se mettre à leur place. Ils jouent le titre. À la fois constructeur, à la fois pilote, il reste deux courses. On peut tout perdre à tout moment. Le coup de poker devient d'un coup beaucoup plus difficile à tenter. En fait, ça devient vraiment un coup de poker comme si tu étais à Las Vegas. Tu vois, c'est plus un coup de poker dans le cercle de jeu de la ville, quoi.
Ouais, mais là, on voit que techniquement, Red Bull ne pourra rien faire. Là, ça fait depuis deux Grands Prix. On voit dès les essais libres, les monoplaces sont complètement larguées. Ils ont claqué des temps incroyables, les Mercedes, là, sur les qualifs. À un moment donné, tu vois, t'as rien à perdre, j'ai envie de te dire. Verstappen, il va terminer minimum deuxième, et au classement des constructeurs, tu termines minimum deuxième. Donc, j'ai envie de te dire, si t'as rien à perdre, tente le tout pour le tout. Aliou, qu'est-ce que t'en penses?
Bah déjà, je reviens à ce que Samy l'a dit tout à l'heure, l'avance de Verstappen fond comme neige au soleil. Rappelons aussi qu'au prochain Grand Prix, mathématiquement, Verstappen peut être sacré champion du monde. Donc après, ouais, ça, on en reparlera peut-être plus tard.
Ouais, mais quelles sont les circonstances aussi, Aliou? Oui, c'est comme si tu disais, au prochain Grand Prix, je sais pas, moi, Alonso peut être troisième encore une fois. Oui, effectivement. Non,
Moi, je dis que mathématiquement, au prochain Grand Prix, Verstappen peut être champion du monde. Et c'est factuel. Ah ouais. Et avant de répondre à ta question, j'aimerais juste rebondir rapidement sur Bottas. Je vais finir par croire qu'il est payé par Red Bull, ce mec. Mais ce n'est pas possible, les gars. D'un coup, on nous sort une pénalité qui vient de nulle part. Pour moi, c'était une aubaine pour Hamilton. Et en plus de ça, Bottas, lui, a une pénalité pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune. Mais Verstappen, un double drapeau jaune. Donc, Bottas, normalement, sur la grille, devait se lancer derrière Verstappen. Et il se trouve à se lancer devant Verstappen.
Devant Verstappen et devant Pérez.
Et à l'extinction des feux, on ne l'a pas vu. Moi, je vais finir par croire que ce mec-là, il fait exprès. Moi, je ne sais pas pourquoi Mercedes ne lui a pas mis une clause avec, je ne sais pas, une maxi-prime. C'est ce qui lui aurait permis de défendre les couleurs de Mercedes jusqu'au bout. Parce que là, franchement, c'est un capital point qu'il a jeté à la poubelle. Et pour répondre à ta question, Gilles, mais en soi, qui gâche la course? C'est Pirelli qui gâche la course.
C'est qui? Désolé.
Pirelli qui gâche la course. Ah. Pirelli se présente à ce Grand Prix-là, enfin nous présente à ce Grand Prix-là, la gamme la plus dure, la gamme la plus dure des pneus. Alors qu'il fallait présenter tout simplement la gamme la plus tendre, ce qui aurait permis aux pilotes de partir en médium, de se débarrasser des médiums au bout de 10 tours, ils auraient chaussé des hards et en fin de course, on aurait eu les tendres. Et là, on aurait eu un Grand Prix. Là, on aurait eu vraiment une bataille entre Verstappen et Hamilton. Mais à partir du moment où Pirelli se présente au Grand Prix avec la gamme de pneus la plus dure, forcément, c'était écrit d'avance. Celui qui partait en pole position, il allait gagner le Grand Prix. C'était, moi, franchement, ce Grand Prix-là, c'est l'un des Grands Prix les plus nuls de la saison. D'ailleurs, c'est le plus nul de la saison. On n'a pas vu de course, on a vu juste de la gestion. Ils ont tous géré, c'est tout.
Hamilton, ça aurait pu être pire, hein, Aliou, parce qu'on a quand même vu que les voitures arrivaient à suivre et à se doubler quand même dans la ligne droite.
Oui, et c'est pour ça qu'il fallait ramener la gamme la plus tendre. Je ne sais pas pourquoi. Pirelli, on a 23 Grands Prix dans la saison et Pirelli, on est encore à faire des statistiques. Arrive à un moment donné, il faut arrêter. Je me demande ce que fait Liberty Media. Liberty Media aurait dû imposer à Pirelli de finir ses statistiques au bout de 18 ou 19 Grands Prix. Ça nous aurait laissé 4 derniers Grands Prix avec la gamme la plus tendre et on aurait eu des stratégies de course. Mais là, on n'a rien eu pour la simple et bonne raison que toutes les écuries étaient en mode on fait un bon départ, on ne se touche pas, ça va être dur de dépasser. Apparemment, c'était les consignes, mais apparemment, il y a eu beaucoup de dépassements. Et après, ensuite, on fait de la gestion. Hamilton n'a fait que gérer son avance, on n'a rien eu. Donc moi, je suis terriblement déçu de ce Grand Prix-là. À trois Grands Prix de la fin, on aurait dû avoir un gros Grand Prix avec beaucoup de dépassements et beaucoup de stratégies si Pirelli aurait joué le jeu. Mais apparemment, chacun en fait à sa tête et je suis terriblement déçu. Et pour finir sur Red Bull, Max Verstappen affiche une image assez sereine devant les caméras, même à la radio, il est assez serein. Mais Christian Horner, il faut juste voir les propos qu'il a tenus sur le commissaire, qui disait que ce commissaire-là était stupide, était un imbécile, il n'était pas assez professionnel parce qu'il ne veut pas agiter un double drapeau jaune, ce qui lui a quand même...
Ouais, il n'a pas tout à fait dit que c'était un imbécile non plus.
Et il l'a dit, c'est ce qu'il a dit. Tu vois que...
Ouais, mais après, ouais. Il est dans son rôle, Aliou. C'est un team manager, il est dans son rôle.
Non, et de là à dire...
D'ailleurs, il s'est fait sanctionner.
Le commissaire,
et il a présenté ses excuses.
Il a été contraint à présenter ses excuses, parce qu'au départ, il dit quoi? Il dit que le commissaire qui a agité le double drapeau jaune, il est tout simplement malhonnête, il est stupide. Et puis que le directeur de course devrait prendre le contrôle sur le circuit. De tête, de mémoire, c'est ce qu'il a dit. Bref, en définitive, juste envie de vous dire que comme quoi, ils nous ont rendu Pirelli et ils ont fait n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est le Grand Prix. Il n'y a pas grand-chose à dire.
Attends, mais ça veut dire que la domination de Lewis Hamilton, pour toi, c'est dû qu'à Pirelli qui a fait n'importe quoi. Tu vois bien que là, ça devient grotesque, en fait. Il est beaucoup trop fort.
La preuve, Samy, ce que je te dis, la preuve, c'est que même Mercedes, lorsque Pirelli a informé les écuries qu'ils allaient venir au Qatar avec la gamme la plus dure, Mercedes a pris le moteur d'Hamilton et l'a mis sous réserve. On va le réserver. Parce que ce n'est plus une course, c'est de la gestion qu'on va faire. Tout le monde le savait. C'était de la gestion qu'on allait faire. Ce n'est pas pour rien que Mercedes a mis au frais le moteur d'Hamilton pour les deux dernières courses. Si Pirelli s'était rendu au Qatar avec la gomme la plus tendre, je t'explique ce qui serait passé. En Q2, ils auraient tous chaussé des médiums. Et on aurait eu un départ en médium. Au bout de 10 tours sur les 71, au bout de 10 tours, tout le monde se serait arrêté pour chausser des durs. Et à 20 minutes de la fin, tout le monde se serait arrêté pour chausser des rouges. Et c'est là où on aurait eu un finish incroyable. Et ils sont présents.
Ouais, je te rejoins.
Du coup, ils ont gâché le Grand Prix. Moi, désolé, moi, depuis vendredi, à partir du moment où j'ai regardé ce que Pirelli allait ramener, je me suis dit on aura un Grand Prix de merde. Et effectivement, on a eu un Grand Prix de merde.
Ah, les mots sont forts, Aliou. Mais alors du coup, pour vous, c'est plié ou pas? Il y en a, on l'a pas entendu. Là, Teddy, il est en train de fêter discrètement, sereinement. Il est en train de
manger. Il commande le champagne.
On commande, on se prépare. Bah, bien sûr. Non, mais honnêtement, je rejoins Aliou à la scène sur ça. Ça a été de la gestion sur tout le week-end. Et c'est les meilleurs gestionnaires qui ont ramené des résultats, tout simplement. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas s'étonner de voir un Alonso aussi à la troisième place, parce que lui, il est très fort là-dedans, dans la gestion, et ça a fonctionné. Ils n'ont fait qu'un arrêt, et malgré tout, il a tenu, et il a fini troisième.
D'ailleurs, c'est le seul qui a passé les 30 tours avec sa gomme. Hein.
On y arrive, les gars.
Exactement. Exactement. Et Hamilton. Ça fait aussi depuis toujours qu'on le dit, et je le répète chaque semaine, c'est l'un des meilleurs au niveau de la gestion des pneus. C'est sûr que si on part sur un Grand Prix où c'est de la gestion comme ça, comment vous voulez le mettre en difficulté? C'est hyper compliqué. Verstappen était très frustré.
C'est pour ça que je te dis, théorie du coup de poker, fallait laisser la Red Bull le plus longtemps possible sur la piste et essayer
Mais je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur. Gilles, ils se sont juste dit... On peut tout perdre comme on peut tout gagner, et du coup,
Ils ont quoi à perdre? Parce que finalement, la probabilité la plus forte, c'est dollars. Que.
C'est des millions de dollars.
Ils ne vont pas terminer troisième du classement, tu vois. Deuxième, ouais. C'était. C'est juste qu'ils ne vont pas gagner davantage, mais on sait déjà sur quoi.
N'oublie pas que justement, Horner fait ce qu'on lui demande, c'est de ramener un champion du monde. Juste pour l'image de l'écurie. On ne lui demande même pas d'être champion constructeur. C'est vraiment un champion du monde qu'il doit ramener sur la table. Et lui avait mis tous ses deniers sur Verstappen. Donc, de là à dire qu'il prenne un coup de poker, qu'il fasse un coup de poker là, je pense que ce n'est pas possible. Il est si proche du but que pour lui, c'était inconcevable qu'il puisse prendre un aussi grand risque sur son poulain et sur tout le reste de l'écurie.
Alors là,
tu vois, là, Juste un truc, excuse-moi Gilles, tu vois là, quand il s'arrête la deuxième fois vers Verstappen, donc il décide de s'arrêter bien avant les Hamilton, il a 8 secondes d'écart, il n'a pas le meilleur tour en course, donc il risque doublement de se faire réduire l'écart parce que c'était Hamilton qui avait le meilleur tour en course. Alors, il s'avère qu'Hamilton, même en changeant de pneu, il n'a pas réussi à lui reprendre le meilleur tour en course. La logique aurait voulu que il s'arrête le plus longtemps possible, il chausse des rouges ou des médiums et il va chercher le meilleur tour en course à un tour de la fin. Et ça aurait poussé Lewis Hamilton à réduire l'écart puisqu'il aurait dû encore plus faire attention à ses pneus et ça nous aurait donné un spectacle malgré les caractéristiques catastrophiques de Pirelli comme l'a souligné Alou. Donc peut-être que là sur ce coup-là il y a eu un problème de stratégie de la part de Red Bull en sachant bien évidemment
Attends, attends,
que là tu
parenthèse
vas
sur,
d'un autre côté tu
sur le.
comptes les points
Ouais, mais
d'un autre côté.
sur le tour le plus rapide, et c'est bien joué de leur part quand même, parce que si tu te souviens bien, il y a eu la Virtual Safety Car qui fait que Hamilton n'a pas pu se battre pour aller chercher le meilleur tour. Tu vois?
C'est ça,
Parce
mais
que
c'est un fait de course. Tu vois ce que je veux dire?
quand t'écoutes, ouais, c'est un fait de course, mais
C'est
quand
un fait de course
son ingé lui avait dit ça se jouera au dernier tour pour le tour le plus rapide. Sauf qu'ils se sont fait avoir, tu vois.
Mais je te rappelle qu'ils sont. Il s'est appris, il s'est arrêté une troisième fois, Verstappen, tu vois.
Parce
Il
qu'il n'avait pas
s'arrête
le
une
choix.
troisième fois pour.
Il n'avait pas le choix. Il avait 38 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je vais trop loin, mais il avait une trentaine de secondes
28,
sur
28
28.
secondes.
Ouais. Il
Ouais.
avait, il avait un écart qui lui permettait de le faire. Et heureusement pour eux qu'ils sont allés chercher ce point-là quand même. Tu vois?
Non mais attends, il l'avait déjà, il l'a juste amélioré en fait.
Ah ben oui,
Ça
mais
n'avait pas
heureusement, il est allé
vraiment,
le
ça n'avait pas
conforter.
vraiment de sens.
Non, si, ben bien sûr que si. Il est allé le conforter parce que sinon, tu n'es pas à 8 points, mais à 7. Et ce n'est pas pareil. Tu vois? Et
En
tu
tout
sais
cas, je te dis,
qu'Hamilton.
en tout cas, honnêtement, très honnêtement, moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Comme l'a souligné Gilles, il reste deux courses. Mercedes se permettent même de mettre le nouveau moteur à l'abri tranquille. Franchement, il faut deux victoires pour qu'Hamilton gagne. Et je vois absolument pas comment il peut être inquiété.
God
Il y avait,
save the Queen. On va entendre God save the Queen, les gars, je vous le dis, moi.
Aliou, il va t'apporter une réponse.
Moi, rapidement, pour rebondir sur ce que vous avez dit avec Red Bull, déjà, premièrement, c'est que Red Bull pouvait espérer deux choses seulement. La première des choses, d'ailleurs, on a vu Helmut Marko avant le Grand Prix, il est parti voir Gasly en lui disant, voilà, tu es sur la première ligne avec Hamilton, il faut que tu ailles le chercher. Il n'avait pas le droit de le
Merci.
faire, mais il l'a fait. D'ailleurs, je me demande ce que faisait Michael Masi à ce moment-là. Je me demande ce que faisait le directeur de course. Je me demande comment ça a pu passer. Parce que c'est interdit de se donner des consignes entre écuries. Mais bon, apparemment, personne ne l'a vu. Et
Moi,
la
je pensais
deuxième.
qu'il lui avait plutôt dit ne gêne pas Max.
Max, il était
Et
loin. Max,
il ne l'a pas gêné.
très
Hein.
loin.
Il ne l'a pas
Ah,
gêné,
Max, il
Max.
était loin. Avant le premier virage, il était derrière lui. Hein.
Oui, mais Helmut
Il l'a
Marko,
laissé passer.
pourquoi?
Hein. Il l'a laissé
Et
passer. Excuse-moi, Lou, je
Helmut
te coupe, mais
Marko, à un
t'as
moment
vu
donné.
l'écart de Gasly? T'as vu quand même l'erreur de
Attends,
pilotage qu'il fait
Gasly.
soi-disant pour laisser passer Max.
Attends,
Attendez.
il est sorti dans les des, après les vibreurs,
Attendez,
c'était
les
plus des
gars.
limites de course.
Les gars, pardon, mais attendez. Helmut Marko, à aucun moment donné, il se dit qu'au premier virage, Verstappen, il va se retrouver quatrième. Pour eux, c'était un miracle. Soit ils ont soudoyé Bottas, ou soit je ne sais pas quoi, mais c'était impossible qu'au premier virage, Gasly se retrouve quatrième. Non, Helmut Marko, lui, pour lui, c'était clair dans sa tête. Verstappen ne va pas marquer énormément de points parce qu'il finira derrière Bottas. Mercedes fera tout pour qu'il finisse derrière Bottas. Et il fallait empêcher Hamilton éventuellement la première place. Donc, il a joué sur Gasly, c'est tout. Et c'est totalement interdit parce que Gasly n'est pas un pilote Red Bull, c'est un pilote AlphaTauri. Et c'est totalement interdit que les écuries se donnent de consignes. Et je ne sais pas ce que faisait la direction de course.
Et
Et la
t'as pas de
deuxième.
preuve là-dessus, Aliou.
Mais on l'a vu parler, tout le monde l'a vu, on l'a tous lu sur ses lèvres.
Mais Aliou, enfin, s'il y a vraiment eu consigne, tu crois vraiment qu'ils vont le faire devant face caméra?
Mais avant le départ, qu'est-ce qu'Helmut Marko venait faire en première ligne, voir Gasly, qui n'est pas un pilote Red Bull?
Oui, non, mais alors,
Mais
il lui dit
attendez.
bonjour, ça va, gère, c'est tout. Mais
Ah oui,
s'il y a consigne de course, ça se fait tranquillement la veille et
Mais
pas au
non,
moment du départ
non, non.
devant tout le monde, hein.
La veille pour la simple et bonne raison que la pénalité de Verstappen, il la reçoit le jour de la course. Et même Verstappen, lorsqu'ils font le tour, lorsqu'ils font le tour d'honneur, Verstappen, il est même pas au courant en ce moment, à ce moment-là, que il est pénalisé, quoi. Donc, et Lou Marco, il était parti dire quoi à Gasly? T'as vu hier ce que Christian Horner a dit sur l'équipe ton concernant? C'est ce qu'il est parti lui dire. Mais non, arrête, Gilles. On n'est pas des enfants, on n'est pas dans le monde des bisounours, on sait tous ce qu'est Lou Marco.
Ah, moi, je dis que s'il y a consigne d'équipe, il ne va pas le faire le jour même, quelques minutes avant le départ, devant toutes les caméras du monde.
Moi, je pense que
Gasly, il sait ce qu'il a à faire. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller lui parler.
Bah, je pense que Lou Marco n'a rien à faire en première ligne parce que c'est deux pilotes.
Attends.
Ce qu'il veut.
Mais ça arrive souvent, ça arrive souvent. Franchement, ça arrive sur d'autres Grands Prix qu'Helmut Marko et Pierre Gasly discutent avant le départ.
Je vais dire une chose. Aujourd'hui, Mercedes, ils sont focus, ils sont concentrés sur les derniers Grands Prix et ne veulent pas s'attarder sur des choses comme ça. Mais crois-moi, heureusement que Mercedes a remis la tête bien droite, mais à l'heure où Mercedes était un peu penché à droite et à gauche, Mercedes serait parti faire une réclamation, ça aurait été normal. Aujourd'hui, Mercedes.
Oh non, uniquement... Avec quelle preuve, Aliou? Voyons.
On a vu les écuries faire des réclamations sans aucune preuve. Cyril Abitbol, l'année dernière, c'était champion du monde. Dès qu'il y avait un truc, il allait faire réclamation. Donc, à ce moment-là du championnat du monde, crois-moi, heureusement que les dirigeants de chez Mercedes sont quand même bien droit dans leurs bottes. Ils sont focus sur le championnat, mais ils auraient très bien pu faire réclamation. Mais bref, je ne voulais même pas m'attarder sur ça. D'ailleurs, je voulais dire que Red Bull, la seule chose aussi que Red Bull pouvait espérer dans ce Grand Prix-là, c'était une safety car. Mais sinon, à part ça, mais Red Bull, vous pouvez me sortir toutes les stratégies du monde. Ils étaient à des années-lumière et ils se disent heureusement qu'ils ont limité la casse. Ils partent très loin, ils finissent deuxième. Il y avait strictement rien, même avant la course.
Mais du coup, Aliou, oui, mais on a compris. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses sur les deux derniers Grands Prix? Comment tu vois la chose?
Mais moi, juste après le Grand Prix du Mexique, j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent ici à aller réécouter le podcast. Depuis le début de la saison, je dis que Verstappen va être champion du monde, mais après Mexique, j'ai changé d'avis. Que Verstappen est toujours en tête, mais je le dis, j'ai revu Lewis Hamilton des grandes heures. Hamilton a enfin compris que la saison...
Aliou, est-ce que tu ne penses pas qu'on aura un dernier Grand Prix, le Grand Prix d'Abu Dhabi? Un remake de Schumacher-Villeneuve?
Non, ça ne se fera pas, je vais vous dire pourquoi. Les deux derniers Grands Prix, déjà le Grand Prix d'Arabie Saoudite, je ne sais pas si vous avez vu le tracé, il a été mis en ligne. On a deux zones magnifiques avec des lignes droites et le nouveau moteur d'Hamilton, il va tout simplement manger les Red Bull, premièrement. Après, au dernier Grand Prix, ça va se jouer, je vois pas.
Bah, il paraît que sur le nouveau circuit d'Abu Dhabi, il y a deux virages qui ont changé, donc il est plus ouvert au dépassement. Je vois pas non plus Max faire quelque chose.
D'où le scénario Schumacher-Villeneuve, souvenez-vous, 97.
Le scénario,
ça va se terminer en bagarre. Ça va se terminer en bagarre, le Grand Prix d'Abu Dhabi.
Le scénario Schumacher-Villeneuve, s'il arrive, il arrivera au prochain Grand Prix, mais pas au dernier, parce que le prochain Grand Prix, si Hamilton gagne, Hamilton repasse devant.
Bah non, pourquoi?
Ils ont 7 points.
Ils seront à égalité parfaite.
Ils seront à égalité parfaite.
Verstappen est deuxième.
Bah oui, non, mais Verstappen, il va jouer le point du meilleur tour.
Il faut qu'Hamilton aille chercher le point du meilleur tour.
Supposons qu'Hamilton cherche le point du meilleur tour. Ils arrivent à Abu Dhabi ex aequo. Oui, il a dire qu'à un moment donné, Verstappen peut sortir Hamilton parce que Verstappen aura gagné 9 points.
Ça va jouer à une place et tu vas avoir de la bagarre au dernier Grand Prix.
J'espère que Bottas va rendre service à la nation.
Ben, moi, je pense plutôt, pour clôturer sur ce sujet-là et redonner la parole, moi, je pense plutôt que le prochain Grand Prix, je pense que ça va être, on ne s'attend pas forcément à ça, mais je pense que Red Bull, Verstappen aura des soucis avec son moteur parce que voit la Red Bull, ils sont en train de tirer sur le moteur. Et le prochain Grand Prix, c'est pas trop un circuit équipé Red Bull avec, comme je viens de le dire, les deux zones de DRS et les grosses lignes droites. Je pense que, je sais pas si Verstappen va finir le Grand Prix ou peut-être en début de Grand Prix ou un truc du genre. Moi, je pense pas. Je pense qu'Hamilton va lui mettre un coup, un gros coup la semaine prochaine.
La piste est nouvelle, l'asphalte est neuf, donc pas gommé. Ce sera la première course sur asphalte. Bon, après, avec de la chance, s'il pleut, là, tu vois.
Je voudrais qu'on s'attarde sur d'autres faits marquants lors de ce Grand Prix.
Attends, Gilles, tu ne penses pas qu'il peut pleuvoir au prochain Grand Prix?
Non, en Arabie Saoudite, à cette saison.
Je ne sais pas.
La saison, il y a
Tempête de sable, c'est tout ce qui peut sauver Max Verstappen.
Là, le seul truc qui peut, entre guillemets, sauver le prochain Grand Prix, c'est comme je l'ai souligné au début du podcast, c'est que Pirelli ne vient pas avec des statistiques, quoi. Si Pirelli vient avec ses statistiques, on est pas dans la merde, quoi.
Bah, logiquement, ils vont mettre les mêmes pneus qu'au Qatar.
Non, ils ne sont pas obligés, parce qu'en plus, il y a 2 semaines d'intervalle. Là, ils vont faire courir pas mal de pilotes à partir de la semaine prochaine. Il y a pas mal de pilotes qui vont courir pour les statistiques et tout. Donc, ça serait bien que Pirelli dise, voilà, moi, j'ai rempli mon quota et pour les 2 derniers Grands Prix, je vous ramène la gomme la plus tendre et allez, débrouillez-vous avec les stratégies.
Bon, OK, les gars, on enchaîne. Alors, on le disait il y a quelques semaines, rien ne va plus chez McLaren, qui est encore sombré durant les derniers Grands Prix. Norris termine 9e. Et que dire des Alfa Tauri? On en parlait déjà la semaine dernière, toujours bien positionné sur la grille de départ. Et là, Gasly, il était en première ligne pour la première fois. Et aucun pilote dans le top 10 à l'arrivée. Et un nombre qui va te plaire, Aliou, 25-0. Ce n'est pas un score de tennis, c'est le nombre de points marqués par Alpine par rapport à Alpha Tauri. Et donc pour le championnat de la 5e place, on a maintenant Alpine qui a été très en forme durant ce Grand Prix. Sur quoi tu veux réagir, Ayou, là, entre du McLaren, du Alpha Tauri et du Alonso?
Bah, moi, j'aimerais réagir sur tout. Mais juste pour dire, déjà, Alpine, ils ont joué en équipe, contrairement à McLaren et contrairement à AlphaTauri.
En équipe, comment ça?
Bah, en équipe, c'est qu'on voyait, que...
Alonso, il a piloté, quoi.
Oui, Alonso et Ocon aussi, quand même. Parce qu'Alonso, il compte sur Ocon, et il le dit d'ailleurs. Non,
mais je veux dire, chacun a fait sa course. Bah, Alonso, il compte sur Ocon, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Ocon?
Tu parles du lion, là? Tu parles du lion, Aliou, ou de qui?
Ouais, le lion, exactement. Parce qu'à un moment donné, lorsque Perez, il commence à faire la jonction, on entend à la radio Alonso dire quand même à Ocon de défendre comme un lion. Donc, ça veut dire qu'il compte sur son équipe, il compte sur son coéquipier. Aujourd'hui, on ne le voit pas du tout dans les autres écuries. Donc, forcément, ça paye, quoi.
Non, mais il a fait quoi après Ocon? Il n'a rien fait. Enfin, on lui dit bats-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien.
Mais il s'est battu. C'est juste que.
Non, attends, il a ouvert la porte. Il s'est écarté sur le côté droit de la piste. Il a laissé Pérez faire sa ligne droite. Et puis, hop, ça y est, il s'est fait manger.
Mais l'autre, mais en même temps, vous avez vu la voiture qui était derrière lui. C'était pas. C'était le pilote qui était derrière lui. C'était pas Nikita Mazepin qui était derrière lui.
Ouais, mais défend. Enfin, tu regardes la défense de Alonso contre Hamilton au Grand Prix du Hongrie, gagné par Ocon, ça n'avait rien à voir. Hein. Et c'était Hamilton derrière. Hein.
Gilles, premièrement, ce n'est pas les mêmes circuits. Et deuxièmement, Checo Pérez, il venait de changer ses pneus.
Et son comportement, tu défends une place. Bah écoute, ça veut dire que tu fais des zigzags sur la piste. Ça ne veut pas dire que tu te penches complètement côté droit et que tu laisses passer Pérez qui est arrivé comme fusée.
Non, mais il n'a pas déjà à faire des zigzags sur la piste, il n'a pas le droit.
Et moi, je pense que tout le monde le fait et c'est une manière de défendre. Hein. Alonso a été incroyable quand il a défendu sur Hamilton. Là, Ocon, il m'a franchement déçu. Je sais pas.
Moi, je pense que sur cette position-là, je pense que Alonso n'aurait pas fait mieux qu'Ocon, hein, par rapport à Perez. Sur ce circuit-là, il n'aurait pas fait mieux qu'Ocon. D'ailleurs, même lui, il sait que Ocon doit le protéger parce que il le dit à la radio, dites-lui de défendre, parce que même lui, il sait que si Perez remonte sur lui, il pourra pas défendre. Après, Ocon, il a fait ce qu'il pouvait. Il n'allait pas non plus rentrer dans Checo Pérez, et ce qui est tout à fait normal. Donc, moi, je salue juste le fait qu'aujourd'hui, Alpine, même si, selon toi, Alonso n'aurait pas eu besoin d'Ocon, je suis prêt à te le concevoir. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette énergie d'équipe fait que, aujourd'hui, il marque des points. Contrairement à McLaren, qui est clairement aux abonnés absents en cette fin de saison, Lando Norris. C'est un intermittent du spectacle, une course, il nous fait une superbe course parce que j'ai trouvé qu'au Brésil, il a fait une superbe course et là, il est aux abonnés absents. Et on voit qu'il n'y a pas de stratégie d'équipe. Et Gasly, dans ce Grand Prix-là, il a été juste perturbé par les propos de Christian Horner ce week-end chez l'équipe.
Non, mais la voiture est naze, Aliou. Enfin, c'est pas une question de comportement sur la piste. La Alpha Tauri... C'est un scandale cette saison.
N'importe quoi.
Gilles,
les gars.
Samy, juste, on finit et je te laisse rebondir sur ce que je dis. Moi, je pense que l'AlphaTauri, elle est super en qualif. En course, elle manque de rythme, certes, et aussi en course, l'AlphaTauri, comme je l'ai dit la semaine dernière, Gasly est tout seul. Donc, du coup, souvent, il se retrouve face à deux pilotes et on a juste besoin de lui faire un undercut. Derrière, il se retrouve dans les profondeurs du classement. Par contre, Gasly, moi, je salue la saison qu'il fait, je salue les performances qu'il apporte à la voiture. Et même Christian Horner, ce week-end, lors de son interview à l'équipe, il en trouve une porte pour Gasly. Il dit clairement que Gasly, voilà, il est fort probable que une fois que Checo Pérez aura fini son
contrat. Non, ça n'arrivera jamais à Liu.
Ben, c'est la première fois depuis 2 ans qu'on entend Christian Horner parler.
On va ouvrir la porte à Samy.
C'était le premier à dire que ça n'arrivera jamais à Liu.
Oui, bien sûr.
Attends, ouvrons la porte à Samy, les gars.
Merci pour l'ouverture. Non, mais honnêtement, l'AlphaTauri déjà, l'AlphaTauri déjà, elle est beaucoup plus performante que ce que vous êtes en train de dire. Moi, je pense que Gasly, il a fait des erreurs et qu'il peut à remercier sa voiture et surtout le moteur Honda 2022 parce que sans ça, il serait vraiment pas là où il est au classement général. Cette saison. Et pour un pilote qui, on peut dire maintenant, Gasly est quand même un pilote par rapport à son coéquipier expérimenté, voire expérimenté plus, puisque c'est un vainqueur de Grand Prix, je trouve qu'il fait une saison moyenne, voire moyenne acceptable. Voilà.
Ouais, mais parce que son équipe n'est pas bonne, Samy.
Non, je suis désolé, non, c'est facile de dire ça.
La stratégie de course a encore été désastreuse, là, du côté de l'AlphaTauri au niveau des passages.
Je ne sais pas si ce n'était pas Helmut Marko qui disait ça, que si tu mets Max dans l'AlphaTauri, il te fait un top 3. Hein. Et j'en suis sûr que cette voiture, elle faisait un top 3 au Qatar. Hein.
Alonso, il fait un top 3 Verstappen parce que c'est lui qui prend les décisions après stratégiques, c'est ça aussi.
L'Alpine,
prendre en compte.
L'Alpine est moins performante que l'AlphaTauri cette saison. Mais l'Alpine, il y a Alonso. Il y a Alonso et voilà, tu vois bien que pour moi Gasly est plus fort qu'Ocon et tu vois bien que Ocon concentré, bah voilà, le lionceau, il fait la différence, il finit cinquième.
Ouais, Aliou.
Ouais, mais Samy et Helmut Marko, il dit un peu n'importe quoi, tu vois. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il dit n'importe quoi. Moi, je le cite jamais, Helmut Marko. J'ai rien contre lui, hein. Franchement, c'est un très bon team manager. C'est lui qui, d'ailleurs, c'est un très bon recruteur. C'est lui qui va chercher les pilotes en général. Il me semblait
que c'était toi qui avais dit ça, justement, sur le fait que s'il y avait Max dans l'Alpha, il ferait mieux que Gasly. Il me semblait que tu avais dit ça dans les émissions précédentes.
J'ai dit quoi ?
Bah, peu importe, c'est un détail, mais je pensais que cette histoire avec Helmut Marko venait de toi.
Non. Helmut Marko, je le cite très rarement. J'ai l'habitude de... Chez Red Bull, j'ai l'habitude de citer Adrian... Adrian Newey et Christian Horner. Helmut Marko, je le cite très peu. Parce que
en tout cas, moi, Gasly, moi, s'il finira pas chez Red Bull deuxième pilote, c'est terminé. Pour moi, sa chance, elle est passée. Et malheureusement... Il n'a pas eu pleinement sa chance. Maintenant, c'est fini. Hein. Faut qu'il arrête de ressortir ça à chaque fois que la mi-saison passe. Il sort des interviews. Non, mais il sort des interviews en disant oui, bah, je suis déçu, je suis ceci, je suis cela.
Non,
regardez là.
Non,
il peut faire mieux. Je suis sûr et certain. Et deuxièmement. Là, Alonso, pour moi, Alonso Ocon, ils ont plié la course. La course à la quatrième place. Hein. Moi, il y a rien à la cinquième place, pardon. Il y a rien à dire. Ce sera Alpine qui finira cinquième. Attention, je ne sais pas combien d'écarts ils sont avec McLaren qui fait du catastrophe, qui enchaîne catastrophe sur catastrophe. D'ailleurs, Ferrari, pour moi aussi, pareil, ils ont plié, ils ont sécurisé la troisième place. Et alors qu'ils sont moins bons là en fin de saison sur ces circuits dits du golf.
Mais McLaren. Oui. Samy, de toute manière, de toute façon, McLaren, on avait parlé, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où pour moi, clairement, le tournant du championnat chez McLaren, c'était la victoire de Ricciardo à Monza. Depuis, Lando Norris aurait dû gagner lui aussi. Malheureusement, il a perdu tout seul. Et il est limite en dépression, quoi.
Mais Aliou, on voit que la McLaren a un vrai problème de performance, par contre.
Il n'y a pas que ça. Aussi. Honnêtement, Gilles, il n'y a pas que ça. C'est aussi beaucoup dû aux pilotes. On a des pilotes qui réussissent à surpiloter dans une voiture, à aller ramener des points parce qu'ils sont surexcités, parce qu'ils veulent aller faire les choses. Ils sont investis dans le baquet et à l'extérieur aussi. Ils ramènent beaucoup de données aux équipes, aux ingénieurs, qui fait que ils parlent beaucoup de stratégie de course avec leurs coéquipiers, avec les équipes. On voit bien que Depuis, Lando Norris, lui, il se contente juste de conduire et puis basta, quoi. Parce qu'on
non, mais Aliou, au top de leur forme, quand même, enfin, si ta théorie était valide, ils feraient quand même des fois un très bon tour s'ils étaient en mauvaise situation sur le plan mental. Et là, sur les essais libres, à chaque fois, sur les qualifs, ils sont largués. Ils sont tout simplement largués.
La semaine dernière au Brésil, Lando Norris, d'ailleurs je l'avais dit ici, pour moi c'était lui, hormis Hamilton bien sûr qui était sur notre planète, pour moi c'était lui le pilote du jour. Il avait fait une super course. Ce week-end ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Y a beaucoup de choses à redire aussi sur la tenue des pneus aussi. Et voilà. Et puis c'était aussi un nouveau circuit, il ne faut pas l'oublier. Ce circuit-là, les pilotes ne connaissaient pas ce circuit-là qui avait des courbes que les pilotes n'avaient pas l'habitude. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des pilotes qui étaient perdus par moment, et on l'a vu chez McLaren. Et un pilote comme Alonso, qui lui, on en a vu d'autres et des vertes et des pas mûres, forcément, s'en est mieux sorti avec son expérience que beaucoup d'autres. Alonso, moi, je pense
Ce n'est pas qu'une question d'expérience. Quand tu regardes Lance Stroll, par exemple, on ne parle pas d'énormes expériences et il s'en sort quand même à la 6e place, tu vois. Donc, il y a un problème de pilotage, c'est tout.
Lance Stroll, pour remettre les choses dans leur contexte, Lance Stroll aussi, s'il n'y a pas la virtuelle safety car en fin de course, il ne finit pas 6e. Hein.
C'est fait de jeu, c'est la même course pour tout le monde, tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc, du coup, qu'un pilote comme ça s'en sorte, ça montre aussi qu'il y a toute une approche à avoir dans ton week-end, dans ta manière d'aborder ton circuit, qu'il soit nouveau ou pas d'ailleurs. Et je pense que tout le monde ne s'est pas préparé correctement. Et en fin de saison, ça commence à peser. On parlait de la fatigue des équipes, mais pas que. Les pilotes aussi sont extrêmement fatigués. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle un moment du calendrier. Pourquoi on enchaîne Mexique-Qatar et ensuite on fait une pause avant de rester dans la même zone géographique pendant 2 semaines. Enfin, je ne sais pas qui fait le calendrier, mais c'est n'importe quoi.
C'est libre. C'est Liberty Media avec Pirelli.
C'est juste le Grand Prix du Qatar de cette année qui remplace le Grand Prix d'Australie qui avait été repoussé à la même date. En fait, c'est juste un problème. Les Japon et l'Australie ont été annulés au dernier moment. Ils ont remplacé par le Qatar et finalement l'Arabie Saoudite était déjà prévue.
Non, au niveau du calendrier, clairement, c'est clairement Liberty Media et Pirelli. Pirelli a un cahier des charges qui le ramène à Liberty Media. Liberty Media s'adapte au mieux, voit avec les pilotes. Et pourquoi aussi ces 2 semaines ? Parce que là, pendant les 2 semaines, il ne faut pas oublier que Pirelli réquisitionne des pilotes. Donc, Pirelli ne peut pas réquisitionner les pilotes à une semaine d'intervalle. Donc, il fallait mettre impérativement 2 semaines. Et là, ce week-end, y a des pilotes qui vont être réquisitionnés. C'est tout à fait normal.
Ils sont rentrés. Hein. Je sais que Charles Leclerc, notamment, et Carlos Sainz étaient déjà à Maranello.
Oui, eux sont rentrés, mais Pirelli ne réquisitionne pas tous les pilotes, ils réquisitionnent en fonction. De toute façon, dans toute l'année, les pilotes, ils passent tous par là, ils sont tous réquisitionnés. Dans toute l'année, ils sont réquisitionnés. Là, ce week-end-là, je ne sais pas qui est réquisitionné par Pirelli, mais en fin d'année, c'est tout à fait normal qu'il y ait 2 semaines d'intervalle entre un Grand Prix. Mais pour revenir à ce qu'on disait, Lance Stroll, moi je reconnais qu'il a fait une super course, mais aussi il bénéficie aussi beaucoup du fait qu'en fin de course, on a la safety car qui lui permet de sécuriser sa 6e place, sinon Lance Stroll est fini. Je ne pense même pas qu'il finit dans les 10 premiers. Après ensuite, il faut bien sûr saluer le podium d'Alonso. D'ailleurs, cette saison, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'une des saisons où on a eu le plus de pilotes je pense sur les 20 pilotes, on en a au moins eu une quinzaine qui a fait un podium, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est un truc à vérifier. D'où le fait qu'on peut dire que c'est une saison assez ouverte. Après,
bon, un peu moins quand même. Un peu moins, t'en plains pas.
Si, je pense. Hein.
Une quinzaine, tu dis ?
Oui, sur les 20 pilotes, un podium, je pense.
Un podium ? Non, cette saison-là, non, impossible. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le podium volé de Russell aussi.
Russell, Ricardo.
Tu vois Verstappen, Hamilton, Bottas, Checo Pérez.
Ouais, non, tu as raison, on y est quasiment.
Ocon, Russell, Ricardo, Alonso. Si je dis pas de bêtises.
J'avais la stat. Il y a Leclerc aussi. Leclerc, Grande-Bretagne qui finit deuxième.
Ah, de toute façon, c'est simple, ceux qui n'ont pas fait de podium, tu as Schumacher, tu as Mazepin. Giovinazzi, Latifi, Raikkonen, Tsunoda. Donc ouais, ils sont 6. Je crois qu'il a fait un podium.
Vettel,
non, il a fait un. Il, Ils sont 7 à ne pas avoir fait de podium. Ouais.
Vettel a fait 2 podiums, Vettel. Il y en a un qui lui a été retiré. Mais voilà, pour dire que cette saison, c'est quand même une saison assez ouverte. Et après, ensuite, ben, dans les derniers Grands Prix, on verra. Et je ne suis pas tellement d'accord avec Samy qui dit que, comme quoi, je ne sais pas, Ocon, il est nul ou je ne sais pas quoi, ou Gasly serait meilleur qu'Ocon. Ça reste à prouver. Moi, je pense que les deux se valent. Et le jour où on mettra dans les mains de Esteban Ocon un baquet où il pourra aller chercher des Grands Prix et des titres, crois-moi que tu n'auras pas le même discours.
Bon, ok les gars, est-ce que ça vous inspire d'autres choses là, AlphaTauri, Alonso? Bon, ça a quand même plaisir d'avoir Alonso là, de le retour 2 ans après, qui est leader au classement des dépassements. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction. Donc, alors bon, c'est une stat assez anecdotique puisque de toute façon, il part toujours assez loin en général sur la grille.
C'est anecdotique, mais pas si tu regardes le trio, le podium de ce classement, justement.
Et les vieux briscards sont là. Ceux qui savent piloter, finalement, sont là. Donc, Raikkonen, Vettel, Alonso, à chaque fois sur ce classement des dépassements. Mais il revient de très loin, Alonso. Franchement, ça fait quand même plaisir de le voir sur le podium. Certains pensaient que Ocon allait être le pilote numéro 1 cette saison chez Alpine. Non, mais franchement, il a gagné un Grand Prix, Ocon. Mais en termes de pilotage, vraiment, il n'y a pas photo. Alonso, il lui donne une leçon de Grand Prix sur 3, soyons clairs.
Mais Gilles, là aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais je pense que soit on ne regarde pas les mêmes Grands Prix.
Ah bah c'est étonnant, tiens, c'est étonnant.
Ouais,
le Lyon.
Ouais. Mais moi, je dis que chez Alpine, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2, les deux pilotes s'entendent extrêmement bien. Lors des qualifications, lorsqu'ils sont en Q2 ou en
Mais ça n'empêche pas que l'un soit au-dessus de l'autre en termes de pilotage. Hein.
Non, moi, je pense pas. Alonso, aujourd'hui, Alonso est l'un des meilleurs pilotes du paddock. Ça, personne ne peut nier. Donc, moi, quand tu me dis qu'Alonso est meilleur qu'Ocon, je te dis, Alonso, aujourd'hui, mis à part Hamilton, je pense qu'Alonso, dans ses grandes heures, ça vaut Hamilton dans ses grandes heures. Hamilton a fait les bons choix de carrière, contrairement à Alonso. Et aujourd'hui, Alonso, quand tu regardes ce qu'il ramène en termes de données pour Alpine, bien évidemment qu'il est une pièce maîtresse pour Alpine, ce genre de données. Quand tu as 20 ans de carrière en F1, bien évidemment qu'un Esteban Ocon, qui est un jeune loup, ne peut pas rapporter autant de données. Donc oui, Esteban Ocon bénéficie du travail d'Alonso à la fois sur la piste et en dehors de la piste, mais de là à dire que sur la piste, Alonso, il a une fulgurance énorme, il a une avance énorme sur Esteban Ocon. Non, désolé, non. Sur
la Ocon, piste. C'est Simba, Aliou. Ocon, c'est Simba. Il est en formation encore là avec Alonso. T'inquiète pas, il viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est qu'un lionceau. C'est le Simba du tout début du film.
Faut pas voir les choses comme ça. Ocon, franchement, il fait une super saison. Et puis il a de la chance aussi et il est très humble aussi Esteban Ocon parce qu'il apprend beaucoup aussi de Alonso, il le dit, il ne se cache pas, franchement c'est de l'humilité, il faut savoir le saluer.
Il n'a pas le choix, même si c'est vrai, il est très humble, mais il n'a pas le choix.
Mais il peut très bien dire, tu penses qu'un Russell il aurait été aussi humble qu'un Esteban Ocon?
Il aurait été insolent au début, mais il aurait vite compris que ça servait à rien. Quand tu as Alonso en face de toi, tu peux faire ce que tu veux, mais ce gars-là, c'est une science de la F1. Donc tu peux rester humble.
Combien de pilotes ont été copilotes, ont partagé la même équipe qu'Alonso et qu'au final, soit ils ne s'entendaient pas, ou soit ils refusaient de reconnaître le talent d'Alonso en disant que…
Ouais, mais ce n'était pas la même chose. Dans le contexte, ce n'était pas la même aura. Aujourd'hui, il revient, regarde à quel âge il revient en F1. Et avec tout le background qu'il a, quand il arrive chez Alpine, tu ne le prends pas de la même manière. Tu vois, à l'époque, il était déjà dans le paddock et tout, c'était complètement différent. Mais là, de faire un retour comme celui-là, en sachant qu'en plus, dans sa pause de F1, et aller faire des performances dans d'autres catégories du sport automobile, mais tu peux que être humble en fait. T'attends juste d'apprendre de ce gars-là.
Avec toi, ça force le respect, mais bon, je suis juste en train de te dire que Ocon, c'est quelqu'un de très humble. Et puis c'est tout à son honneur. Et aujourd'hui, il fait une super saison en fonction de la voiture qu'ils ont, en fonction du baquet qu'ils ont. Parce que franchement, pour moi, la Alpine, si t'as pas Alonso et Ocon, ça vaut pas mieux qu'une As cette année. Hein. Heureusement que tu as déjà un gars qui surperforme, qui est Alonso, avec son expérience, et tu as un autre qui veut, qui a faim, et qui le démontre. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui le voit sur la piste, et c'est bien dommage.
Ok les gars, bah écoutez, il nous reste encore deux grands prix, et je pense que le dernier grand prix, celui d'Abu Dhabi, où on sera nous quatre réunis, n'est-ce pas, eh bien ce sera un grand prix explosif. Donc d'abord, rendez-vous dans deux semaines pour le grand prix d'Arabie Saoudite, s'ils finissent de le construire d'ailleurs, ce circuit, pour ensuite donc amorcer le bouquet final. Ça sera donc du côté d'Abu Dhabi dans trois semaines, ça sera le deuxième week-end de décembre.
Juste rajouter une dernière chose. Moi, je dis Hamilton, masterclass en début de week-end, avec le casque qu'il avait arboré et qui a été flouté par Liberty Media.
Non, il n'a pas été flouté, Aliou, c'était un fake.
C'était un
montage.
Ah, bah excusez-moi. En tout cas, quoi qu'il advienne.
D'ailleurs, il l'aura au prochain Grand Prix aussi. Hein. Il a décidé de le garder sur deux semaines. Enfin, sur deux Grands Prix.
Trois, il paraît.
Ah ouais, bah, il a changé. Au début, c'était pour deux. Ok.
Et ben moi, je salue le courage d'Hamilton. Je pense que c'est quelque chose qui doit être salué. Et aujourd'hui,
aucun courage, bidon. C'est bidon.
Non, c'est un
aucun dimanche. Courage. Complètement bidon. C'est Hamilton, de la com de bas étage dont il a le secret.
Ouais, mais Samy, juste laisse-moi finir. Hamilton est un immense champion. Et parmi les immenses champions, il n'y en a pas beaucoup qui se mouillent. Sébastien Vettel aussi est un immense champion et qui se mouille beaucoup pour des causes qu'il trouve normales. Et Hamilton, aujourd'hui, se bat pour une cause que moi-même, je salue, franchement. Aujourd'hui, il se bat contre les discriminations. Il le montre, il le démontre. Il n'a pas peur de ses sponsors. Et puis moi, je dis chapeau Lewis Hamilton. Je ne suis pas un fervent supporter de Lewis Hamilton, mais quand il fait des choses comme ça, franchement, je me range derrière lui.
Je ne suis pas du tout d'accord. C'est bidon. Et pour les vraies causes, les causes où il y a très peu de gens qui se mouillent, où il y a très peu de sponsors qui sont capables de faire du politiquement correct, et depuis ce jour-là retire son poste pour une certaine cause, et depuis ce jour-là je pense qu'il a perdu énormément en crédibilité auprès de pas mal de suiveurs de la F1 et de suiveurs en règle générale. Il veut se poser comme le Mohamed Ali de la Formule 1, tout pilote exceptionnel qu'il est, il n'a aucun charisme dans ce sens-là. Alors peut-être que sur certaines causes, il a eu son mot à dire, et j'ai encore, faudrait demander aux gens qui sont concernés. Maintenant, sur d'autres, c'est plus un outil marketing et un outil qui se fait mener à la baguette par ses sponsors, rien de plus.
Ok les gars, bah écoutez, vous avez été complets. On se retrouve donc pour un nouveau podcast de Parlons Sport dans quelques semaines après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Merci Samy, merci Aliou Alassane, merci Teddy.
Merci à toi Gilles.
Merci à tout le monde.
Merci les gars.
On se retrouve pour un prochain podcast de Parlons Sport. À très bientôt.
Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.